7. Hodges et Holly restent un moment dans l'allée avant de monter en voiture, laissant le vent froid de janvier les malmener. Il vient du nord, directement du Canada. Aussi, l'odeur habituelle du grand lac pollué à l'est est agréablement absente. Il n'y a que quelques maisons de ce côté-ci de Hilltop Court, et la plus proche porte un panneau à vendre. Hodges s'aperçoit que l'agent immobilier est Tom Saubers et il sourit. Tom aussi a été grièvement blessé au City Center, mais il a réussi à remonter quasiment toute la pente. Hodges est toujours stupéfait de la résilience dont sont capables certains hommes et certaines femmes. Ça ne lui redonne pas exactement espoir en la race humaine, mais... En fait, si. Dans la voiture, Holly pose le Inside View par terre, le temps d'accrocher sa ceinture, et le ramasse aussitôt. Ni Pete, ni Isabelle ne se sont opposés à ce qu'elle le prenne. Hodges n'est même pas sûr qu'ils aient remarqué. Ça serait pas étonnant. Pour eux, la maison de Madame Ellerton n'est pas vraiment une scène de crime, même si c'est bien ce qu'elle est aux yeux de la loi. Pete était troublé, certes, mais Hodges ne met pas ça sur le compte de l'intuition policière, plutôt une espèce de réaction superstitieuse. Hartsfield aurait dû mourir quand Holly l'a frappé avec mon happy slapper, se dit Hodges. Ça aurait été mieux pour tout le monde.
Je connais Pete. Il ira vérifier les photos du suicide Frias Countryman, dit-il à Holly. Diligence de rigueur et tout ça. Mais s'il trouve un Z griffonné quelque part, sur une plinthe, un miroir, alors là, je tomberai vraiment des nues.
Elle ne répond pas. Son regard est perdu au loin.
Holly, t'es là?
Elle sursaute légèrement.
Oui. Je réfléchis juste à comment localiser Nancy Alderson à Chagrin Falls. Ça ne devrait pas prendre trop de temps avec tous les logiciels de recherche que j'ai, mais c'est toi qui devras lui parler.
Je peux téléphoner moi-même si j'y suis absolument obligé. Tu sais bien que...
Oui, tu t'en sors très bien maintenant.
Ce qui est vrai, bien qu'elle téléphone toujours avec sa fidèle boîte de Nicorette à portée de la main. Sans parler de la réserve de Twinkies qu'elle garde dans son bureau en renfort.
Mais ce n'est pas moi qui lui dirai que ses employeuses, ses amies, pour ce qu'on en sait, sont mortes. Tu devras le faire. Tu es doué pour ce genre de choses.
Hodges croit que personne n'est vraiment doué pour ce genre de choses, mais ne se fatigue pas à le dire.
Pourquoi tu veux joindre la femme de ménage?
Elle mérite de savoir, dit Holly. La police va contacter les membres de la famille, c'est leur boulot. Mais ils ne vont sûrement pas appeler la femme de ménage. En tout cas, je ne pense pas.
Hodges ne pense pas non plus, et Holly a raison. Alderson mérite de savoir. Ne serait-ce que pour lui éviter de se retrouver face à une maison condamnée par la police en retournant travailler. Mais d'une certaine manière, il ne pense pas que ce soit l'unique motif de l'intérêt de Holly pour Nancy Alderson.
Ton ami Pete et Miss Jolis Yeux Gris n'ont quasiment rien fait, dit Holly. Il y a de la poudre à empreintes dans la chambre de Martin Stover, oui, d'accord. Et sur le fauteuil roulant, et aussi dans la salle de bain où Madame Ellerton s'est suicidée, mais rien à l'étage où elle dormait. Ils sont sans doute montés assez longtemps pour s'assurer qu'il n'y avait pas de cadavre planqué sous le lit ou dans le placard, et ils n'ont pas cherché plus loin.
Attends une minute, t'es monté à l'étage ?
Bien sûr, il fallait bien que quelqu'un enquête consciencieusement, ce que ces deux-là n'ont certainement pas fait. En ce qui les concerne, ils n'ont aucun doute sur ce qui s'est passé. Pete t'a appelé parce que ça l'a glacé, c'est tout.
Glacé, oui, c'est ça. C'est exactement le mot qu'il cherchait et qu'il n'avait pas trouvé.
Moi aussi ça m'a glacé, poursuit Holly sur un ton d'évidence. Mais j'ai pas perdu mon sang-froid pour autant. Ils ont faux sur toute la ligne. Faux, faux, faux. Et tu dois parler à la femme de ménage. Je te dirai quoi lui demander si tu vois pas.
C'est à propos de ce Z dans la salle de bain. Si tu sais quelque chose que je ne sais pas, j'aimerais bien que tu me mettes au courant.
C'est pas ce que je sais. C'est ce que j'ai vu. Tu n'as pas remarqué ce qu'il y avait à côté du Z?
Un marqueur?
Elle lui jette un regard qui dit « Tu peux mieux faire ».
Hodges a recours à une vieille technique de flic particulièrement pratique lors de témoignages devant le tribunal. Il regarde à nouveau la photo, dans sa tête cette fois.
Il y avait un câble d'alimentation branché au mur à côté du lavabo.
Oui ! J'ai d'abord cru que c'était pour une liseuse et que Mme Ellerton le laissait brancher là parce que c'était dans cette partie de la maison qu'elle passait le plus clair de son temps. Ça aurait été un endroit pratique pour la recharger parce que toutes les prises de la chambre de Martine étaient utilisées par les appareils médicaux. Tu crois pas ?
Ouais, c'est possible.
Sauf que j'ai un Nook et un Kindle.
Bien sûr que t'as ces machins-là, pense Hodges.
Et aucun des deux n'a de chargeur comme celui-là. Ils sont noirs. Celui-là était gris.
Peut-être qu'elle avait perdu l'original et qu'elle s'en était racheté un à Tech Village.
À peu près le seul magasin d'électronique de la ville depuis que Discount Electronics, l'ancien employeur de Brady Hartsfield, a fait faillite.
Non. Les liseuses ont des chargeurs à deux broches. La fiche de celui-là était plus large, comme pour une tablette électronique. Sauf que mon iPad a aussi ce genre de chargeur, et que celui de la salle de bain était bien plus petit. C'était un câble pour un appareil portable plus petit. Alors je suis allé à l'étage pour voir ce que je pouvais trouver.
Et tu as trouvé ?
Rien qu'un vieux PC sur le bureau près de la fenêtre dans la chambre de Mme Ellerton. Je veux dire, vraiment vieux. Il était raccordé à un modem.
Oh mon Dieu, non ! S'exclame Hodges. Pas un modem !
C'est pas drôle, Bill. Ces femmes sont mortes.
Hodges lève une main du volant et fait un signe d'apaisement.
Désolé, je t'écoute. C'est la partie où tu me dis que tu as allumé l'ordinateur.
Holly a l'air légèrement embarrassée.
Oui. Mais seulement pour les besoins d'une enquête que la police n'a clairement pas l'intention de mener. J'étais pas en train de fouiner.
Hodges pourrait discuter, mais s'abstient. Il n'y avait pas besoin de mot de passe, alors je suis allé voir l'historique de Mme Ellerton. Elle visitait pas mal de sites de vente en ligne, et surtout beaucoup de sites médicaux sur la paralysie. Elle semblait particulièrement s'intéresser aux cellules souches, ce qui paraît logique étant donné l'état de santé de sa...
Tu as fait tout ça en 10 minutes ?
Je lis vite. Mais tu sais ce que je n'ai pas trouvé ?
De site sur le suicide, j'imagine.
Oui. Alors, comment pouvait-elle savoir pour l'hélium ? Et comment a-t-elle eu l'idée de dissoudre les comprimés dans la vodka et de la verser dans la sonde gastrique de sa fille ?
Eh bien, dit Hodges, il y a cet ancien rituel ésotérique que l'on appelle lire des livres. Tu en as peut-être entendu parler.
T'as vu des livres dans leur salon, toi ?
Il se remémore le salon, tout comme il s'est remémoré la photo de la salle de bain de Martin Stover. Et Holly a raison. Il y avait des étagères de bibelots, le tableau des petits-enfants aux yeux immenses et l'écran plat de la télé. Il y avait des magazines sur la table basse, mais étalés d'une façon qui suggérait davantage un élément de décoration qu'une réelle passion pour la lecture.
Et puis, il ne s'agissait pas exactement de l'Atlantique. Non, dit-il, pas de livres dans le salon. Mais j'en ai vu quelques-uns sur la photo de la chambre de Stover. L'un d'eux ressemblait à une Bible.
Il regarde le inside view plié sur les genoux de Holly.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Holly ? Qu'est-ce que tu caches ?
Quand Holly rougit, elle passe en état d'alerte maximale, le sang lui montant aux joues de façon alarmante. C'est le cas maintenant.
« C'est pas du vol, » dit-elle. « C'est un emprunt. Je ne vole jamais, Bill, jamais. »«
Relax. Qu'est-ce que c'est ?»«
Le truc qui va avec le chargeur dans la salle de bain. »
Elle déplie le magazine et dévoile un gadget rose fluo avec un écran gris éteint. C'est plus gros qu'une liseuse et plus petit qu'une tablette.
Quand je suis redescendue, je me suis assise dans le fauteuil de Mme Ellerton pour réfléchir une minute. J'ai passé mes mains entre les accoudoirs et les coussins. J'étais même pas en train de chercher quoi que ce soit. J'ai fait ça comme ça, c'est tout.
L'une de ses nombreuses techniques d'autoréconfort en déduit Hodges. Il lui en a vu beaucoup depuis sa première rencontre avec elle en compagnie de sa mère surprotectrice et de son oncle à la sociabilité agressive. En leur compagnie ? Non, pas vraiment. Cela supposait une égalité. Charlotte Gibney et Henry C. Royce la traitaient plus comme une enfant attardée mentale de sortie pour la journée.
Holly est une toute autre femme à présent. Mais il reste des traces de l'ancienne Holly, et Hodges comprend. Après tout, on se traîne tous notre ombre.
C'est là que je l'ai trouvé, du côté droit. C'est un zapit.
Ce nom lui dit vaguement quelque chose. Même si du point de vue gadget électronique à puce, Hodges est largué. Il fait toujours planter son propre ordinateur. Et maintenant que Jérôme n'est plus là, c'est généralement Holly qui vient chez lui, dans Harper Road, pour une leçon de remise à niveau.
Un za quoi ?
Un Zapid Commander. J'ai vu la pub sur Internet, bien que pas récemment. Ils sont livrés avec une centaine de jeux vidéo préinstallés du genre Tetris, Simon et Spell Tower. Rien d'aussi compliqué que Grand Theft Auto. Alors dis-moi ce que ça fichait là, Bill. Dis-moi ce que ça fichait dans une maison où vivait une femme de presque 80 ans et une tétraplégique qui pouvait même pas allumer les lumières et certainement pas jouer à des jeux vidéo.
C'est vrai, c'est curieux. Pas insensé, mais curieux, oui.
Et le chargeur était branché juste à côté du Z, dit-elle. Pas Z comme fin, genre lettre d'adieu, mais Z comme zapit. Du moins, c'est ce que je crois.
Hodges réfléchit.
Peut-être.
À nouveau, Hodges se demande s'il a déjà entendu ce nom quelque part, ou si c'est seulement ce que les Français appellent un faux souvenir. Il pourrait jurer que ça a quelque chose à voir avec Brady Hartsfield, mais il ne peut pas vraiment faire confiance à son intuition, car aujourd'hui, il pense beaucoup à Brady. Depuis combien de temps je ne suis pas allé le voir ? 6 mois ? 8 ? Non, plus longtemps. Bien plus longtemps. La dernière fois, c'était peu de temps après l'affaire Pete Saubers et la valise d'argent et de carnets volés que Pete avait découverte, pratiquement enterrée dans son jardin de derrière. Ce jour-là, Hodges avait trouvé un Brady inchangé. Le même jeune homme réduit à l'état de mollusque, vêtu d'une chemise à carreaux et d'un jean qui ne se salissait jamais. Il était assis devant la fenêtre, dans le fauteuil où Hodges le trouvait à chaque fois qu'il venait faire une visite à la chambre 217 de la clinique des traumatisés du cerveau, à fixer le parking couvert de l'autre côté de la rue. La seule nouveauté se trouvait en dehors de la chambre 217. Becky Elmington, l'infirmière-chef, avait été transférée à l'unité chirurgicale du Kinner Memorial, coupant ainsi court à tout échange avec Hodges concernant les rumeurs qui circulaient sur Brady. La nouvelle chef de service était une femme aux scrupules rigides et au visage fermé comme un poing. Ruth Scapelli avait refusé les $50 que lui offrait Hodges en échange du moindre petit potin qu'elle pourrait récolter sur Brady. Elle avait même menacé de le signaler à l'administration s'il s'avisait à nouveau de lui proposer de l'argent contre des informations confidentielles.
« Vous n'êtes même pas sur sa liste de visiteurs. »«
Ce ne sont pas des informations sur lui que je vous demande, » avait dit Hodges. « J'ai déjà toutes les infos dont j'ai besoin sur Brady Hartsfield. Je veux seulement savoir ce que le personnel dit de lui. » Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent, vous savez. Des rumeurs assez folles.
Scapelli l'avait gratifié d'un regard dédaigneux.
Il y a des ragots dans tous les hôpitaux, monsieur Hodges. Surtout s'agissant de patients célèbres. Tristement célèbres, en l'occurrence. J'ai organisé une petite réunion du personnel peu après le transfert de Madame Elmington à son poste actuel, et j'ai informé mon équipe que les commérages sur monsieur Hartsfield devaient cesser immédiatement, et que si j'avais encore vent de rumeurs, je remonterai à la source et je veillerai à ce que là ou les personnes concernées soient renvoyées. Quant à vous,
elle le toisa d'un air condescendant, le poing serré de son visage se contractant encore davantage,
je n'arrive pas à croire qu'un ancien officier de police, décoré qui plus est, ait recours à la corruption.
Peu de temps après cette entrevue plutôt humiliante, Holly et Jérôme avaient coincé Hodges et mis en scène une mini-intervention pour le sommer de mettre fin à ses visites. Jérôme avait été particulièrement sérieux ce jour-là, oubliant un instant sa verve enjouée habituelle.
« Il n'y a rien pour toi dans cette chambre. Tu ne peux que te faire du mal en allant là-bas, » avait dit Jérôme. « On sait quand tu es allé le voir. À chaque fois que tu reviens,
Il y a un petit nuage gris qui plane au-dessus de toi pendant 2 jours.
Plutôt une semaine, avait ajouté Holly.
Elle ne le regardait pas, et elle se tordait les doigts d'une façon qui donnait envie à Hodges de la faire cesser avant qu'elle ne se casse quelque chose. Sa voix, en revanche, était ferme et assurée.
« Il n'y a plus rien à l'intérieur de lui, Bill. Il faut que tu l'acceptes. Et s'il lui reste un peu de conscience, il doit être ravi de te voir revenir à chaque fois. Il voit le mal qu'il te fait, et ça le fait bicher. »
C'est ce qui l'avait convaincu, parce que Hodges savait que c'était la vérité. Alors il se tient à distance. C'est un peu comme arrêter de fumer. Difficile au début, de plus en plus facile avec le temps. Aujourd'hui, il arrive que des semaines entières se passent sans qu'il pense à Brady et au terrible crime de Brady.
Il ne reste rien à l'intérieur de lui.
C'est ce que Hodges se dit alors qu'il les ramène vers leur bureau au cœur de la ville, où Holly fera tourner son ordinateur à plein régime et commencera à traquer Nancy Alderson. Quoi qu'il se soit passé dans cette maison en haut de Hilltop Court, l'enchaînement de pensées et de conversations, les larmes et les promesses, le tout se soldant par les cachets dissous dans la sonde gastrique et la bouteille d'hélium, avec son image d'enfant rieur, Brady Hartsfield n'a rien à voir là-dedans. Parce que Holly lui avait littéralement explosé le cerveau. S'il arrive que Hodges en doute parfois, c'est qu'il ne supporte pas l'idée que Brady ait en quelque sorte échappé au châtiment, qu'au final, le monstre lui ait filé entre les doigts. Ce n'était même pas Hodges qui avait balancé le coup de chaussette rempli de billes d'acier qu'il appelle son « happy slapper ». Il était trop occupé à se débattre avec une petite crise cardiaque à ce moment-là. Quand même, l'ombre d'un souvenir. Zapit. Il sait qu'il a déjà entendu ce nom quelque part. Son ventre lui lance un avertissement de douleur et il repense au lapin qu'il a posé à son médecin. Va falloir qu'il s'occupe de ça. Mais ça peut attendre demain. Il a dans l'idée que le docteur Stamos va lui annoncer qu'il a un ulcère. Et ce genre de nouvelles peut attendre.